On va prier. Seigneur, nous te remettons encore ce temps d'écoute de ta parole. Nous voulons encore te remettre aussi les enfants qui sont descendus, que tu puisses veiller aussi sur eux dans leur apprentissage de ta parole, que ton esprit aussi soit sur eux, que tu accordes aussi aux moniteurs, monitrices de l'école de dimanche une pleine grâce pour pouvoir transmettre cette vérité qui nous fait du bien. Seigneur, ce matin, oui, nous voulons aussi entendre ta parole. Ouvre notre cœur, notre entendement, notre pensée pour vraiment voir ta volonté sur ma vie personnelle. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de ce message sur la peur, qui est aussi un signe de manque de foi. Mais nous avons aussi, à travers l'histoire de Paul, malgré les problèmes qu'il pouvait avoir, malgré les persécutions qu'il attendait, il était serein, courageux, tout simplement parce qu'il faisait confiance au Seigneur. Et après ce message, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais aussi apporter comme message après ce message. Je me suis dit que ce serait bien de réfléchir aussi comment ne pas vivre dans la désobéissance, ou comment vivre dans l'obéissance. Comment aussi voir notre état spirituel, comment reconnaître que nous sommes peut-être dans une sécheresse spirituelle. Tout cela au travers de l'histoire de Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. C'est une histoire tellement passionnante, n'est-ce pas? Il suffit d'écouter une fois cette histoire et on n'oubliera jamais, parce que il y a tellement de rebondissements. C'est pas si simple que ça. Enfin, voilà, on pourrait faire presque un film. D'ailleurs, on a déjà fait un film, je pense. Ouais. Alors, en tout cas, l'histoire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que non, mais pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de Jonas, c'est l'histoire d'un prophète de Dieu qui s'enfuit, alors que Dieu lui ordonne pas mal de choses. Il se cache pour s'enfuir de Dieu, et puis alors que Dieu lui demande d'annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Et devant cette parole, il décide de s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il prend un navire à Jaffa. Dieu ne le laisse pas impuni. Et puis, il souffle sur la mer un vent violent. Et le navire est sur le point de faire naufrage. Après avoir tiré au sort, donc je vous parle assez rapidement, le prophète Jonas est jeté dans la mer et il a été avalé par un grand poisson. Quel poisson? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un grand baleine ou un poisson qui n'existe plus? J'en sais rien. Il se repent à l'intérieur et le poisson le rejette en tout cas à l'endroit où on peut aller directement vers Ninive. Et il est conduit donc à Ninive. Il prêche la destruction de Ninive et les Ninivites se repentent à sa surprise. Et ils sont sauvés. Le prophète se plaint auprès de Dieu et puis Dieu lui montre combien chaque personne est précieuse à ses yeux. Voilà l'histoire de Jonas, en résumé. Très bien. Rien à dire. C'est une histoire vraiment tellement captivante. J'aimerais vous lire en tout cas les deux premiers versets dans le chapitre 1. On va parler un petit peu sur le chapitre 1 seulement. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà, donc on voit Dieu parler à son prophète, à son homme de Dieu, à l'homme de Dieu, pour qu'il puisse transmettre son message. Et le premier verset, après avoir entendu ce message, qu'est-ce qu'il fait? Et Jonas se leva. Non pas pour annoncer la bonne nouvelle, mais la nouvelle de Dieu, de la part de Dieu. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas, c'était qui? Un prophète. C'est quoi un prophète? C'est un messager de Dieu. Une personne qui, justement, transmettre la parole de Dieu à son peuple. Et là, il choisit de s'enfuir. Vous savez, à l'époque, les prophètes ne recevaient pas le message de Dieu tous les jours. parfois Dieu restait silencieux et que, par exemple, Jérémie, pendant des années, il a attendu. Pendant des années, il n'y avait plus de message de la part de Dieu. Donc il attend. Et puis le jour où il reparle, là, il retransmet justement le message de Dieu à son peuple. Donc parfois, Dieu ne parle pas comme... Voilà, lorsque nous voyons dans la Bible, on a l'impression qu'il parle tout le temps. Mais non, il y a pendant des années, Dieu peut ne pas parler. Et son métier, en tout cas de Jonas, c'était de transmettre le message quand Dieu parle. Et là, quand Dieu parle, je ne sais pas, c'est votre métier, enfin c'est votre vocation de transmettre, et vous attendez la parole de Dieu, et puis Dieu enfin lui parle, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit la fuite. Il avait oublié son identité, en fait, de prophète. Il avait oublié son travail, sa vocation. Parfois, vous savez, c'est vrai que être prophète, c'est pas facile parce que il faut faire. On est face à parfois des nombreuses tribulations à cause de ce que vous prononcez comme parole de la part de Dieu. Beaucoup de prophètes ont été emprisonnés, beaucoup de prophètes ont été persécutés à cause de ce qu'ils ont prononcé de la part de Dieu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de David et le prophète Nathan, quand David a commis le péché d'adultère et de meurtre, Dieu envoie le prophète Nathan pour dire que voilà ce que tu as fait. Mais pour le prophète, il fallait avoir du courage. On sait que David était un homme selon le cœur de Dieu, mais à l'époque, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Le prophète a le devoir de transmettre le message. Et il se pouvait que David, par sa colère et pour cacher ses fautes, il aurait pu exécuter, je sais pas, ou emprisonner ce prophète Nathan. Non, il s'est agenouillé, heureusement. Mais en tout cas, le prophète, un travail ingrat, parfois, parce que, voilà, on a beau penser à une certaine manière, quand Dieu vous parle, il faut transmettre ce message, ce beau message. Mais au lieu de cela, en tout cas, Jonas, après avoir reçu le message, il s'enfuit, il choisit de s'enfuir. Et d'ailleurs, il va aller à Tarsis. Est-ce que tu peux mettre le dessin, le plan? Vous voyez? Il était à Jérusalem. Ninive, c'est par là, à droite. Et là, il choisit Tarsis, en Espagne. Vous voyez, c'est... Déjà, rien qu'en voyant la direction, on voit son cœur. Complètement à l'opposé de ce que le Seigneur voulait faire. Ouais. Est-ce qu'il avait vraiment un rêve d'aller à Tarsis? J'en sais rien. Tu peux laisser. Est-ce qu'il avait ce rêve d'aller un jour à Tarsis? Peut-être que c'était une ville prospère, une ville attirante, j'en sais rien. Mais en tout cas, il choisit tout de suite la destination vers Tarsis. Bien sûr, il a aussi décidé de s'enfuir parce qu'il avait la haine contre les étrangers. Vous savez qu'à l'époque, lorsque nous voyons un petit peu le rituel des Juifs, quand ils font le culte, on voit bien, avec la disposition des salles, comment ils traitaient les étrangers. Comme moins que rien, en fait. Et donc... Quand il a entendu cette nouvelle comme quoi il faut annoncer la parole de Dieu aux étrangers, il s'est dit que, ah non, mais il se peut qu'eux, ils se repentent et que mon ennemi devient un enfant de Dieu. Ça, il ne pouvait pas accepter. Il ne pouvait pas accepter. Je ne sais pas comment on pourrait transposer aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'entre les Juifs et toujours les Arabes, c'est pas toujours une bonne relation. Mais je me dis que, enfin, pour les Français, j'avais du mal à réfléchir parce que nous sommes en bon terme avec tout le monde, même avec des Allemands qui nous avaient attaqués. Donc je me suis dit, ah oui, ce serait bien de penser un peu entre la Corée et le Japon. Le Japon était notre colonisateur et que nous avons un très mauvais rapport entre les deux pays. Hein? Et voilà, donc je pense qu'on peut transposer de cette manière-là. Et puis, d'ailleurs, je me rappelle maintenant, un jour, le Seigneur parle à un pasteur coréen, va au Japon, prêcher l'évangile. Et il a dit non, Seigneur. Non, Seigneur, parce que ce sont nos ennemis, ceux qui nous ont colonisés. En plus, ils ont pris toutes nos ressources des matières premières. Je ne veux pas. Le Seigneur a insisté et finalement, il est allé au Japon. Il a beaucoup souffert aussi. Il a beaucoup souffert. Enfin bref, ça c'est entre parenthèses. En tout cas, Jonas, lui, il ne voulait pas que les étrangers se repentent. Au verset 3, donc je relis, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, c'est un port où il pouvait prendre le bateau. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il y a plusieurs fois, il est dit, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. On voit loin de Ninive, loin de Jérusalem, loin de la présence de Dieu. Il décide de s'enfuir. Il va au port qui s'appelle Jaffa. Et qu'est-ce qu'il voit? Il trouve un navire incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que, vous savez, on ne trouve pas un navire comme ça. Parfois, il fallait attendre des semaines, des mois pour aller à une destination, à votre destination. Mais là, il décide de s'enfuir de Dieu. Il va au port et tout roule sur la roulette. Enfin comment, non, c'est pas ça. Tout marche sur la roulette. Pour dire que ben c'est super. Ça vous est jamais arrivé? Vous faites autre chose le dimanche au lieu de venir au culte et tout va bien. Parfois aussi, on désobéit à Dieu et puis tout va bien. Même parfois, on a l'impression que les portes s'ouvrent. Hein? Ou alors qu'on est loin de Dieu. Ça arrive, bien sûr. En tout cas, il prend le bateau qui va vers la direction de Tarsis. Dans cette fuite, il abandonne bien sûr son appel, son identité, parce qu'il veut vivre sa vie, il veut faire... voilà. Et là, oublier l'identité devient un danger pour nous aussi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes vraiment appelés à le servir, et si nous oublions cette vérité-là, ça veut dire que nous sommes dans une sécheresse spirituelle. Nous devrions justement nous remettre en question à ce moment-là. Et le problème chez Jonas, c'est qu'il ne s'est pas mis en question, il ne s'est pas remis en question, alors que, voilà, il est en train de désobéir à Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment éveillés spirituellement? Au verset 4, je vous lis encore. « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, la navire menaçait de faire naufrage. » Parfois, on a l'impression que, voilà, en désobéissant à Dieu, et puis même en étant loin de Dieu, parfois tout va bien, mais ça ne dure pas longtemps. Hein? Si nous sommes aimés de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Si on n'est pas ses enfants, il reste indifférent. Mais il veut vraiment nous faire revenir vers le Seigneur, et c'est pour ça qu'il accorde un vent impétueux, violent, à ce navire qui va vers la direction de Tarsis. En tout cas, parfois, dans notre vie, une tempête, on peut penser que ça peut être une bénédiction de la part de Dieu. Au verset 5, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Voilà, donc vous savez, dans ce bateau, il n'y avait pas que les gens de Jérusalem. Voilà, il y avait vraiment toutes sortes de personnes. Il y avait toutes sortes de personnes qui allaient justement en direction de Tarsis. Je ne sais pas si vous prenez un avion pour aller aux États-Unis, il n'y a pas que les Américains, il y avait toutes sortes de personnes. Et puis sûrement aussi des marchands qui étaient aussi dans le bateau. En tout cas, bref, ce bateau représente peut-être un peu le monde réuni dans ce petit lieu. Donc ils ont eu peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Hein, s'il y avait un bouddhiste, voilà, il priait Bouddha, enfin, il faisait une prière de Bouddha, ou encore d'autres, voilà, il y avait d'autres dieux occultes, ils pouvaient implorer leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, voilà, pour alléger le bateau, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, c'est bizarre, ils sont en train de travailler. Et là, Jonas, il descend au fond du navire, il se couche et il s'endormit profondément. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Hein? C'est, certes, la semaine dernière, je vous avais dit que Jésus était au sommeil parce qu'il faisait confiance à Dieu. Non, là, c'est loin de cela. Hein? Cette action, plutôt cet agissement, c'est parce qu'il veut dormir pour oublier. Il veut dormir parce que, voilà, il veut être loin de la face de Dieu. Il veut vraiment tout oublier. Et puis s'enfuir. Comme il a choisi la fuite à la parole de Dieu, il choisit encore la fuite devant cette tempête. Hein? C'est une fuite. Donc, voilà. C'est pas pareil que Jésus qui s'endort dans la confiance de Dieu. On pourrait dire que oui, il était aussi endormi spirituellement. Il était endormi spirituellement. Alors que le monde s'agite pour essayer de résoudre le problème, faisant leur maximum. Mais, et puis ils n'avaient pas forcément la solution. La seule personne qui avait la solution, c'est-à-dire Jonas, lui, il décide de s'endormir. Hein? Le messager de Dieu. Parfois, nous pouvons être la seule solution à des problèmes qui peuvent exister et que nous pouvons apporter les solutions, mais nous ne faisons rien. On peut se comporter comme ce Jonas. En tout cas, on voit ici de l'irresponsabilité de sa part. Au verset 6 et 7, je vous lis. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Mais pourquoi tu dors? Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, comme les autres, quoi. Les autres, ils invoquent leur Dieu, donc toi aussi, je ne sais pas d'où tu viens, mais tu dois aussi invoquer ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Voilà, de la bouche d'un athée, on entend la vérité. Au verset 7, « Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort. » Pour savoir qui nous attire ce malheur, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Intéressant. Est-ce qu'il faut faire ça aujourd'hui aussi? Je ne pense pas. Dans l'Ancien Testament, il y a eu un cas comme ça. Par exemple, après avoir détruit la ville de Jéricho, voilà, l'Israël était en pleine confiance. Et maintenant, ils sont face à une toute petite ville qui s'appelle Aï. Pas Aï, Aï, j'ai mal. Non, Aï. Et qu'ils décident d'envoyer quelques hommes, pas tout le monde, parce que c'est une toute petite ville. Et puis, ils connaissent une grande défaite. Ils se disent, mais Seigneur, Josué dit, mais Seigneur, pourquoi cette défaite? Alors que nous avons gagné contre la grande ville Jéricho. Et là, devant une petite ville comme ça, on a connu une défaite terrible. Qu'est-ce qu'ils vont penser des autres? Ils vont penser maintenant que nous sommes un peuple faible et ils vont tous attaquer vers nous. Et puis, Dieu dit, mais parce que tu as péché, tu as péché. Et là, il décide de tirer le sort, tirer au sort. Et donc, il fait réunir les 12 tribus, enfin les représentants des 12 tribus. Et là, ils tirent au sort. C'est la tribu Judas qui est tirée au sort. Et ensuite, parmi les tribus de Judas, il y a plein de familles du groupe familial. Et c'est Zéra qui est... Zéra, la famille Zéra, le groupe familial de Zéra qui a été tiré au sort. Et ensuite, on fait encore un tir... On tire au sort après, au sein de la famille Zéra. Il y a la famille Zepta qui a été tiré au sort. Et ensuite, parmi la famille Zabta, on a tiré au sort la famille Akan. Et donc, cette famille-là, on lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu nous punisse comme ça? Et apparemment, il a pris aussi des choses interdites, alors que Dieu a dit de ne pas le prendre. Donc, c'est comme ça qu'il a été jugé par le peuple. Voilà, donc il y a cette histoire-là où on voit se tirer au sort dans Josué chapitre 7. Mais ici, en tout cas, avec Jonas, bah, c'est pas l'homme de Dieu qui propose, c'est... ils ont en tout cas fait ça, ils ont tiré au sort, et puis le sort tomba sur Jonas. Au verset 8 et 9 que j'aimerais vous lire, « Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» Il leur répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel. » Ah ! Là, il commence à changer. Lui qui était loin de Dieu, maintenant il dit qu'il craint l'Éternel. Là, on voit qu'il se remet en question, il revient vers le Seigneur. Et là, il évangélise même en disant que cet Éternel, ce Dieu que moi je crois, c'est qui? C'est le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Hein? Là, on est en ce moment en problème avec cette tempête-là, mais mon Dieu, c'est celui qui gère tout en fait. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Voilà, donc ils savent maintenant que c'est à cause de Jonas que ces malheurs sont arrivés et qu'ils ont appris sur ce Dieu de Jonas qui est un Dieu tellement puissant, un Dieu du ciel et de la terre et de la mer aussi. Donc je disais que oui, là il commence à changer, il commence à se dire que je crains l'Éternel. Oui, lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nous sommes dans le péché, il faut d'abord prendre conscience qui nous sommes, c'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants précieux pour le Seigneur. Si nous ne connaissons pas notre propre identité, tout devient confus. En tout cas, il profite, enfin, je sais pas, malgré lui en tout cas, il profite d'occasion pour évangéliser. À votre avis, quelle devait être dans ce cas-là la réaction des gens après avoir entendu que voilà, c'est à cause de Jonas? La première réaction, c'est de le jeter jeter par-dessus du bord pour calmer un petit peu la colère de ce Dieu. Mais ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. La première chose qu'ils font, c'est les hommes ramaient pour gagner la terre. Ils ne pensent pas encore à jeter cet homme par-dessus du bord. Mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de gens de bien, même s'ils ne croient pas en Dieu. C'est vrai. Verset 13. Les gens qui étaient sur ce bateau, ils n'ont pas pensé, en tout cas, à tuer ce Jonas ou quoi que ce soit. Non, ils ont d'abord essayé de sauver tout le monde. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens de bien. Mais est-ce que nous surpassons ces gens-là? Parce que Dieu nous dit, je vous le dis ici, votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il y a des gens bien dans le monde, mais nous devrions justement être même encore surpasser leur justice, leur bonté. Bien sûr, Dieu accorde à tout le monde la grâce commune, ça s'appelle la grâce commune. Hein, et comme il accorde aux bons et aux mauvais la pluie, il accorde aussi la bonne conscience, même à non-chrétiens, c'est pour ça qu'ils arrivent à être vraiment performants dans la bonté, dans le bénévolat, dans le service des autres, dans l'amour du prochain même. Mais ils ne savent pas vraiment que ça vient de Dieu, tout simplement. Ça s'appelle la grâce commune. Mais Dieu nous dit qu'il faut justement surpasser leur gentillesse, leur bonté, puisque nous, nous savons la vérité. Nous, nous avons la vérité. Je continue la lecture, verset 14. « Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » C'est une prière adressée, enfin, c'est une prière adressée à Dieu. Par qui? Par des gens. Ce n'est pas Jonas qui prie, ce sont des gens qui ont entendu la bonne nouvelle, prient à Dieu. C'est incroyable. L'évangélisation a permis, enfin, une sorte d'évangélisation a permis que ces gens, maintenant, vénèrent, craignent Dieu. Et ils prirent Jonas, finalement, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Là, ils voient tout de suite le résultat. Ils le jettent dans la mer, et puis, hop, la mer s'apaise tout de suite. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Pas juste un moment où, voilà, ils croient à Dieu. Non, ils font des vœux, sûrement des vœux en se disant que tu es un vrai Dieu. Maintenant, nous te vénérons. C'est comme s'il y avait une sorte de réveil au sein de ce navire. Malgré la désobéissance de Jonas, il y a eu quand même un fait assez bienfaisant pour ces gens-là qui étaient sur le navire. Voilà. Notre église organise bientôt Parcours Alpha. Et Parcours Alpha, c'est quoi? C'est inviter des gens qui ne connaissent pas Dieu, leur parler. Parfois, on peut se dire, mais moi, je n'ai pas les dons pour évangéliser les personnes. Mais non, vous n'avez pas besoin de parler quoi que ce soit. Il suffit juste de transmettre une invitation et le reste sera fait par les gens qui ont été formés. Et que Parcours Alpha est vraiment un très bon moyen pour, en tout cas, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Au verset 17, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Voilà donc la fin de ce premier chapitre, où on voit donc Jonas entrer dans le ventre du poisson pour demeurer 3 jours et 3 nuits. Et c'est là où, justement, il dépose tous ses fardeaux. Il ne peut plus rien faire, donc il décide aussi il se repent pour revenir vers Dieu. Il répond enfin à l'appel de Dieu. Voilà. On peut dire que cet naufrage était une bénédiction, malgré sa désobéissance. Ce qui est en tout cas étonnant, c'est que Dieu prépare le chemin. Et quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Il le fait. Et que nous puissions vraiment être sur son chemin pour réaliser son plan. Bien sûr, parfois, Dieu ne nous accorde pas aussi promptement. C'est-à-dire que lorsqu'il tombe dans la mer, Dieu envoie le poisson pour le prendre. C'est vraiment un très bon timing. Mais parfois, Dieu attend aussi. C'est aussi dans son plan. Par exemple, lorsque Lazare est en train de mourir et que les sœurs viennent solliciter Jésus, Jésus n'y va pas tout de suite. Il s'attarde pendant 2 jours. Alors qu'il aurait pu y aller. Voilà. Parfois, Dieu s'attarde dans certains plans. D'autres fois, comme ici, alors qu'il tombe et qu'il est au point de mourir, il envoie ce grand poisson dans un bon timing pour le sauver et aussi pour l'amener justement à faire le ministère qu'il lui a confié. Je vais conclure. Je pense que c'est vraiment important de se remettre en question devant le Seigneur quotidiennement pour savoir si nous ne sommes pas dans la sécheresse spirituelle. Parfois, sans savoir, nous pouvons nous comporter ou dire des choses qui sont contraires à Dieu, contraires à son plan. Et c'est seulement par ce malheur qu'il a vraiment compris et qu'il est revenu. D'ailleurs, il n'avait pas tout compris, parce que même en voyant la conversion des Ninivites, il se plaint auprès de Dieu. Il n'avait pas vraiment compris le plan de Dieu. Mais en tout cas, Dieu, sachons que Dieu marche avec nous. C'est un très bon pédagogue. Donc, selon la mesure de notre foi, il agit pour notre propre bien. Soyons vraiment plus confiants aussi et que, malgré les désobéissances, nous voyons aussi la bénédiction qui a été accordée non seulement à Jonas, mais aussi à ceux qui étaient sur le navire. Que le Seigneur puisse nous utiliser pour que beaucoup de personnes soient sauvées, comme ces gens qui étaient sur le bateau. Je vous invite vraiment à avoir peut-être ce qui manquait à Jonas, c'était l'amour du prochain. Mais nous savons, par rapport à Jonas, plus de vérité, puisque Jésus est venu par la suite, et que nous connaissons ce que Jésus a déjà accompli, et que maintenant nous avons l'Esprit avec nous, et cet Esprit nous permet de vivre vraiment pleinement dans la joie de Dieu, et aussi dans la confiance. Que vraiment le Seigneur nous donne aussi une pleine confiance pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. Et que, voilà, il n'y a pas que le parcours Alpha, on a aussi un culte d'évangélisation le 3 mars, où vous pourriez inviter aussi vos amis, nos amis, et faire entendre la bonne nouvelle. Et après, c'est Dieu qui travaille. Nous semons, c'est tout. Après, c'est Dieu qui fait croître. Ce sont les affaires de Dieu, après. Que vraiment, nous puissions vraiment avoir un grand amour pour toutes ces personnes qui sont perdues. Je vous invite à la prière. Parfois, nous remarquons, Seigneur, parmi les non-chrétiens, des gens très sympathiques. Des gens qui ont un grand amour aussi pour les personnes. Nous savons que c'est aussi par ta grâce, c'est toi qui as accordé cette grâce commune à tous. Mais tu dis aussi que nous devons aussi surpasser leur justice. Aide-nous à être vraiment des hommes bien aussi à l'égard de nos contemporains. Et Seigneur, le plus grand amour, la plus grande justice que nous pouvons aussi faire, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans la perdition. Que nous puissions vraiment prendre le courage aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Et oui, tu nous as suscité comme tes enfants, tu nous as suscité comme tes serviteurs, et tu nous as aussi appelés à transmettre cette bonne nouvelle, non pas que garder pour nous-mêmes, mais transmettre ces bonnes nouvelles à ceux qui sont autour de nous. Aide-nous vraiment à être des messagers de Dieu. Et que nous savons que, oui, parfois nous pouvons être persécutés à cause de ce que nous faisons, mais Seigneur, aide-nous à avoir cette paix intérieure, cette sérénité et cet amour du prochain pour que beaucoup de gens soient sauvés à travers aussi nos actions. Seigneur, ouvre nos bouches, que l'occasion se présente ou pas, que nous puissions vraiment avoir un grand amour pour ceux qui sont autour de nous. Merci encore pour l'exemple de Jonas qui nous a permis de voir que oui, on peut tomber aussi dans une sécheresse spirituelle. On peut même aussi être loin de toi, se cacher de toi, mais par ta grâce, tu viens nous chercher, parfois dans la tribulation. Et que nous puissions vraiment vite comprendre ce que nous subissons et que nous puissions aussi comprendre ta volonté. Que nous soyons promptes à revenir vers toi, dans la bonne direction, Seigneur, pour accomplir ta volonté. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. C'est le temps des annonces. Alors, pendant...